en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Elisabeth Antebi.
François d'Orcival, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes là pour vous tailler votre habit vert.
Comme c'est gentil et comme c'est bien dit.
Alors, ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux qui font cocu tous les jaloux. Vous êtes un Gascon.
Oui.
Hein, et vous êtes né, je crois, à Aurignac,
oui,
qui est tout un programme en soi, puisque ça a donné l'Aurignacien.
C'est vrai.
Est-ce que vous avez vécu parmi les hommes de Cro-Magnon dès votre jeunesse ?
Pas vraiment, mais vous évoquez Cro-Magnon et l'Aurignacien, et ce sont en effet mes deux familles, si je puis dire, puisque je suis né, comme vous venez de dire, à Aurignac, Haute-Garonne, où l'on a découvert donc les foyers de cette époque aurignacienne à la fin du XIXe siècle. Et ensuite, l'abbé Casteret a fait beaucoup de recherches d'éléments divers et variés, dont la plupart se trouvaient au musée de Saint-Germain-en-Laye, qui est, comme vous le savez, rapatrié maintenant à Marseille, qui ouvrira dans quelques années. Et puis, vous évoquez Cro-Magnon, c'est-à-dire les Aisys, c'est-à-dire la Dordogne, qui est ma famille paternelle. Et donc, je suis plein sud-ouest et en effet cadet de Gascogne.
Et c'est toute la Dordogne, disait Cyrano.
Absolument.
Hein. Mais votre folklore, c'est plutôt Dumas, si j'ai bien compris, et les mousquetaires. Alors déjà, je vais révéler un secret, qui est un secret un peu de polichinelle, car vous avez été reçu à l'hôtel de Lassay par une assemblée immense, il faut bien le dire, au deux sens du mot, de l'assemblée. Et votre épée est une épée de mousquetaire noire de 1815, si j'ai bien retenu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mousquetaire ? Normalement, on met sa jeunesse, ses prouesses. Non, vous avez choisi d'être un mousquetaire noir.
Je vais raconter l'histoire telle qu'elle est et qui est l'histoire à l'envers. Ça n'est pas la passion de Dumas qui me conduit à vouloir avoir avec le costume et l'habit, donc, une épée de mousquetaire, c'est l'inverse. C'est que je suis journaliste, je l'ai été toute ma vie, et il m'a semblé que ne pouvait porter un journaliste qu'une épée de mousquetaire. Et donc, à partir de là, pourquoi une épée de mousquetaire ? À cause de l'esprit mousquetaire, à cause du côté léger, brillant, fantaisiste, mais en même temps ordonné, discipliné de ce que peut représenter un mousquetaire. Et donc, à partir de là, eh bien, en effet, j'ai reconstitué en quelque sorte une histoire. Autrement dit, le souvenir des lectures d'enfance ou des lectures d'adolescents, lié avec l'envie d'avoir une épée qui ne soit pas une épée de fantaisie, mais qui soit une épée inscrite dans l'histoire, puisque élu à la section Histoire et Géographie, au fauteuil d'Henri Amouroux. Et donc, cette épée...
À l'Académie des sciences morales et politiques, bien sûr.
Mais cette épée, je voulais qu'elle représente quelque chose dans l'histoire. Et vraiment, ce qui reliait le mieux l'histoire au journalisme, eh bien, c'était cet esprit mousquetaire que je viens d'évoquer. À partir de là, il fallait que je trouve une épée de mousquetaire authentique, vrai. Et j'ajoute réglementaire. Réglementaire, ça veut dire une épée qui ait été fabriquée pour une unité militaire. Et des unités militaires portant cette épée-là, il n'y en a pas beaucoup. Il y avait les deux compagnies de mousquetaires, les mousquetaires gris, dont les chevaux étaient...
Oui, c'est la couleur
gris,
des chevaux, n'est-ce pas ?
Absolument,
les gris et le noir.
Tout
oui,
à
oui.
fait.
Moi,
et, non pas
pas,
la tenue,
oui.
et non pas
oui.
la tenue. Ou les mousquetaires noirs. Et je dois dire que le soir de la remise de l'épée, mon parrain à l'Académie, Jean Tullard, a eu l'exquise idée de raconter ce que fut le destin de cette compagnie de mousquetaires noirs qui constituait à la Restauration, donc au retour de Louis XVIII en 1814, va l'accompagner dans son exil au moment des 100 jours, traversant le nord de la France, allant jusqu'en Belgique, destin que Aragon lui-même avait compté dans la Semaine Sainte.
Alors, est-ce que vous avez commencé un peu comme Athos, ou plutôt d'Artagnan donnant des coups de rapière, non pas un peu partout, faut pas exagérer, mais enfin vous vous êtes attaqué à des sujets politiquement pas très corrects. Vous n'êtes toujours pas très correct politiquement, mais enfin vous, est-ce que vous avez évolué de D'Artagnan à Aramis ?
C'est ce que l'on dit. Oui. C'est ce que l'on dit. Et c'est amusant que vous fassiez cette remarque.
À la vérité, racontez-nous vos débuts. Alors, vos débuts, c'était la Rhodésie. Vous avez fait un livre sur la Rhodésie.
Oh, oui. Non, mais
un autre sur l'Algérie.
Bien sûr. À la vérité, le métier du journalisme est une vocation chez moi. Je n'ai eu aucune autre vocation que celle-là. Et j'ai eu la chance de faire ce métier. Et donc, j'ai démarré très tôt, puisque j'étais encore au collège de Juilly, collège d'oratorien, très ancien, puisque créé pratiquement en Île-de-France, dans le nord de l'Île-de-France, et collège créé par, si mes mémoires est bonne, le cardinal de Bérulle, dans les années qui entouraient la création de l'Académie française. Et donc, j'ai été pensionnaire à Juilly pendant 4 ans et j'ai publié à cette occasion-là, dans Tintin, mon premier article en 1956, mon premier article qui était le récit de la vie au collège, accompagné de dessins, etc. Ceci dans Tintin Actualité. Et ensuite, je suis venu faire la fin de mes études, le début de mes études universitaires à Paris et j'étais passionné par le métier de journaliste. Et donc, je me suis empressé d'entrer en contact avec des vrais journalistes de métier qui m'ont emmené voir ce qu'était la fabrication d'un journal, comment ça, tout cela se composait, ce qu'étaient les typographes, les linotypistes, les rotativistes, etc. Et cet univers-là est mon vrai univers mental d'adolescence. Et je ne l'ai jamais quitté finalement. De sorte que c'est autour des années 1959-1960 que j'ai commencé à écrire des articles pour tel ou tel journal, revues universitaires ou vrais journaux, dans C'est-à-dire, puis ensuite dans Combat. Puis ceci m'a conduit à rencontrer ceux qui allaient me permettre d'être stagiaire à partir du mois de juillet 1966, au Spectacle du Monde, revue mensuelle qui existait depuis 1962, et dans un journal qui s'appelait encore Finance, qui était donc l'héritier d'un journal paru en 1929, l'année du krach, qui avait été créé 2 mois après le krach, au mois de décembre 1929, sous le titre « Aux écoutes de la finance », et qui était le confrère d'un autre titre plus connu à l'époque, « Aux écoutes du monde », mais dont le fondateur était le même, c'est-à-dire Paul Lévy. Paul Lévy avait vendu en 1956 « Aux écoutes de la finance » à Raymond Bourgine, tout jeune journaliste, devenu directeur de journal. Et c'est Raymond Bourgine qui m'a engagé à Finance, qui, en octobre 1966, devenait Valeurs actuelles. Et donc, voilà 43 ans que je suis là.
Alors, c'était votre premier coup de foudre, Raymond ouais. Bourgine, si on peut dire.
Oui, bien
votre
sûr.
Papa coup de foudre, enfin, votre papa, il était pas
oui, patron.
Tellement plus
parce
vieux.
Parce qu'à l'époque, quand on dirigeait un journal, on était un patron.
Oui. Maintenant, moins.
Maintenant, moins.
On est un financier.
Les patrons changent parce que ce sont devenus des présidents, que ce sont des actionnaires. Et le patron, c'est
l'atmosphère du journal a changé à partir de quand, finalement ? L'atmosphère d'un journal, je ne parle pas de ce journal spécialement. À votre avis, le grand tournant, justement, entre les linotypistes, toute cette atmosphère...
Ça, c'est la numérisation.
Bon, ça, c'est la numérisation, mais c'est plus tardif, peut-être. Mais
oui,
le passage du patron au financier, au fond, c'est
ça,
passé quand ?
Je crois qu'il y a encore des patrons, mais il est vrai que Jean-Jacques Servan-Schreiber a été un grand patron de presse, Émilien Amaury en a été
avec
un autre.
Avec Giroud quand même.
Avec Françoise Giroud, bien sûr. Mais le patron, c'était lui, c'était Jean-Jacques. Françoise Giroud, on ne l'a jamais appelée la patronne. C'était une grande dame et elle a donné infiniment de leçons en matière de journalisme. Mais le patron, c'était celui qui était à la fois le propriétaire et le directeur de la rédaction, l'âme du journal, la personnalité du journal et tout ça. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, les choses ont un peu bougé. Et puis, n'oublions pas, à France Soir, Pierre Lazareff, enfin tous ces grands noms. Aujourd'hui, c'est vrai, on n'a pas les mêmes patrons. Bien.
Alors, Bourgine, pourquoi Bourgine? Parce que au fond, Bourgine, c'est parce que c'était lui, parce que c'était moi, ou
est-ce non, que c'était... Ce sont les rencontres de l'existence, et donc ce sont les chances dans l'existence. Vous rencontrez quelqu'un qui vous fait rencontrer quelqu'un, et puis vous vous dites, si jamais ça pouvait fonctionner, si jamais.
Mais il
ça
devait
pouvait...
être extraordinaire quand même pour avoir tenu les choses, enfin hors de l'ordinaire.
Mais je pense bien. Et c'est pour ça que j'ai été son élève, j'ai été son filleul pendant 25 ans. Et évidemment, en matière de journalisme et de gestion, de prise de responsabilité, de vision, de ligne éditoriale, il m'a appris l'essentiel.
Alors nous allons revenir évidemment sur le journalisme, puisque c'est le fond de l'histoire. Mais j'ai découvert, il se trouve que j'étais à l'hôtel de la Cé, cette réception absolument magnifique, parce qu'il faut dire que la salle était absolument bourrée. C'était quelque chose de très impressionnant. Et il y avait là finalement toutes vos facettes, si on peut dire. Du moins, c'est ainsi qu'on les voyait. Il y avait d'un côté les grands patrons, enfin je ne le dis pas dans l'ordre de vos facettes bien entendu, mais enfin il y avait les grands patrons, il y avait Sellière, il y avait l'ancien patron de Renault dont j'oublie le nom maintenant.
Louis Schweitzer,
merci.
Bien sûr.
Il y avait bien sûr Pierre Belon, François Michelin. Voilà. Il y avait donc les grands patrons, il y avait bien évidemment l'Académie qui était en face de vous. Il y avait surtout, alors peut-être le plus surprenant était tout ce mélange de journalistes, puisque j'ai reconnu un journaliste de l'Humanité.
Claude Cabanne.
Yvan Levaille, qui est quand même pas d'extrême droite. Il y avait tout LCI, mais vous avez travaillé à LCI. Il y avait tout le Figaro le magazine, mais vous travaillez au Figaro magazine. Il y avait tout Valeurs Actuelles, bien sûr, avec Catherine Ney, Pénanster et bien d'autres.
Éric voilà. Branca, Guillaume Roquette.
Je ne peux pas tous les citer, comme on dit, dans les remerciements et dans les coupes. Mais ce qui était très impressionnant, c'était de voir combien se révélaient des facettes finalement assez différentes de vous-même. Alors, juste après la pause, on va plutôt détailler certaines de ces facettes. Mais disons tout de suite que l'une des plus surprenantes est finalement représentée par l'un de ceux qui vous recevaient, c'est-à-dire le général Kahn, bien connu des anciens du Liban, d'Algérie, etc. Et le général Kahn nous a révélé que vous avez joué un rôle finalement dans l'armée. Alors, suspense, nous interrompons 2 minutes et nous retrouvons François Dorcival.
Avec l'émission Les allusions historiques, amusez-vous à découvrir les bons mots et les expressions passées dans la langue française. L'historien Jean-Claude Bologne vous livre les détails de l'ère des lampions, de l'œuf de Christophe Colomb et bien d'autres anecdotes. Les allusions historiques, une rubrique de l'émission Un jour dans l'histoire, à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
François Dorcival, nous voilà à nouveau ensemble pour votre habit vert. Donc nous avons laissé un petit suspense s'installer sur votre vie, puisque nous vous avons l'une de vos facettes, comme je disais, il y en a de nombreuses, représentée par le général Kahn, que vous avez rencontré, vous avez siégé avec lui, je crois, à l'Institut des hautes études de défense nationale. Alors racontez-nous un peu ça.
L'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, est une institution merveilleuse quand on a la chance de passer une année avec d'autres auditeurs, ce qui a été mon cas en 1981-82, parce que 3 jours par semaine, mais 40 jours dans l'année, vous êtes immergé dans un autre univers que le vôtre. Vous représentez ce que vous êtes, naturellement. Donc,
c'est-à-dire à quel titre
presse,
vous êtes eh bien, au titre vous, de presse
au titre de la presse, exactement. La session compte 80 personnes. Qui se compose de la manière suivante, un tiers de militaires, qui sont tous colonels, capitaines de vaisseau, un tiers de hauts fonctionnaires et de, en général, et un tiers de personnalités venues du monde dit de la société civile, donc avocats, médecins, syndicalistes, prêtres et journalistes des médias. Et donc, nous étions certainement une bonne demi-douzaine de journalistes dans cette session-là, comme dans toute session de l'IHEDN. Et pendant toute une année, Nous travaillons.
Quelle année ça commence
au mois de septembre, ça se termine au mois de juin. Et donc, cela court. Les choses ont un petit peu varié, mais enfin, l'essentiel, c'est deux journées par semaine, groupées, le vendredi et le samedi, par exemple, ou le lundi et le samedi, plus toute une série de voyages à l'étranger, dont l'objet est de vous faire découvrir et pénétrer ce que sont les questions centrales, essentielles, que doit traiter un gouvernement en matière de sécurité, de politique étrangère, de transport de matières énergétiques essentielles, etc. Et donc, évidemment, des questions de défense et de géopolitique. Et pendant donc toute cette année, vous ne traitez que de cela. Et donc, vous êtes au contact de militaires et de civils qui constamment font venir des intervenants de l'extérieur, mais aussi des plus grandes institutions de l'État, pour vous exposer ce que sont les métiers des armées, mais ce que sont les métiers du renseignement, mais ce que sont les métiers de la responsabilité politique ou syndicale ou autre. Et vous en sortez, car c'est une session qui se déroule alors que vous avez 35, 40 ans, moins de 50 ans en tout cas, vous en sortez avec des rencontres,
une camaraderie. Ah bon, parce qu'à un certain âge, c'est fini.
Ah oui, c'est fini. Vous avez passé une année ensemble, mais ensuite, toute votre vie, vous en êtes marqué.
D'accord.
Parce que
donc,
ça se passe à ce moment-là.
Donc des rencontres, une camaraderie.
Des rencontres, une camaraderie et des amitiés qui vont ensuite se poursuivre. Et effectivement, le général François Kahn était colonel à ce moment-là. Il était colonel quand je l'ai rencontré et je l'ai suivi toute son existence. Et c'est pourquoi j'ai souhaité qu'il fût dans la présidence de mon comité de l'épée auprès de Xavier Darcos, Périgourdin, élu de Périgueux, auprès de Bernard Accoyer, élu de Haute-Savoie, président de l'Assemblée nationale, et de Jean Tullard, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était effectivement mon parrain, parce que nous nous connaissons là encore depuis le début des années 80, et que je l'ai lu si souvent, et qu'il a une universalité de culture telle que je croyais bien que ce serait un choix, un bon choix, et je crois que cela a été.
Oui, surtout qu'ils se sont répondus, parce que le général Kahn, je conseille à tout le monde d'aller voir ce qu'il dit, parce que d'abord, il dit des choses sensées, et puis d'autre part, il est plein d'humour.
Absolument.
C'est-à-dire qu'en effet, c'est lui qui a souligné, puisque Xavier Darcos, en bon latiniste, avait cité Cicéron, Arma...
Sedant arma togae.
Oui, Cedant arma togae, et que donc le général avait répondu
alors,
Cedant togae armis.
Absolument.
C'est-à-dire que, en l'occurrence, on vous rendait une épée au lieu d'une plume.
Oui.
Hein, donc c'était assez intéressant, c'est un beau symbole d'ailleurs. Mais auparavant, on avait révélé aussi que vous étiez d'une famille, les Chaunac, je ne savais pas du tout que votre nom de plume, enfin François d'Orcival est un nom de plume, et que vous vous appelez d'abord Amaury, ce qui est fort joli, et pas mal non plus, Chaunac-Lanzac, hein, et que les Chaunac-Lanzac, semble-t-il, sont des prêteurs.
Ils ont été des bretteurs.
Oui,
ben oui, parce que c'est une vieille famille de Quercy, du Limousin et donc du Périgord, et que famille nombreuse, donc il y avait toujours parmi 5, 6 ou 7 frères et sœurs, l'un qui était à la terre et 2 ou 3 qui partaient pour l'armée. Et donc effectivement, nous avons eu des combattants jusqu'à la génération de mon père. Mon père appartenait à la première escadrille de chasse quand il est parti pour l'Indochine. L'aîné de la famille, Bertrand, était dans l'armée du maréchal Juin en Italie. Et le dernier, le cadet, était l'aide de camp du maréchal Leclerc, Gérard de Chaunac, qui sera ensuite à la tête de l'un des organismes de prêt de la compagnie bancaire auprès de Jacques de Fouchier. Donc
ah,
il a fait une carrière militaire qui s'est poursuivie par une carrière de gestionnaire et aussi de président de la Fondation pour la recherche médicale.
Ah oui, en effet. Donc vous êtes le premier finalement à vous battre par la plume.
Je suis le premier de la famille à me battre par la plume, absolument. Je n'avais rien dans ma famille qui me préparait au journalisme, si ce n'est que mon père adorait l'écriture et qu'il nous a laissé beaucoup de volumes de vers, et notamment un oratorio en vers consacré à François d'Assise.
Oh là, oui, c'était pas journaliste vraiment. Non. Enfin, encore que avec l'acculturation, c'était déjà une forme de journalisme. Hein. Mais alors, quel était votre modèle, à part Saint-François d'Assise, quel était votre modèle finalement? Est-ce que c'était Albert Londres? Est-ce que c'était Kessel? Est-ce que ça remontait à beaucoup plus loin? Est-ce que c'était Dumas qui est même final? Ou est-ce que c'était Hérodote qui est le premier journaliste?
Le modèle, c'est assez difficile parce que, au fond, on écrit comme on vous apprend à écrire. Et donc, mon vrai modèle, ça a été mon patron, Raymond Bourgine, je le citais tout à l'heure. Mais ensuite, toute votre vie de journaliste, vous apprenez à travers Chateaubriand et les Mémoires d'Outre-Tombe, à travers les choses vues de Victor Hugo, à travers Balzac, ou à travers. Vous apprenez à écrire mieux que le spontané qui vous vient sous la plume. Et ça, c'est le plus bel exercice que l'on puisse faire dans ce métier, c'est que toute sa vie, on apprend comme un bon artisan à améliorer son métier. Et plus on écrit, plus on améliore son écriture et plus on lit. Et donc, il est vrai que Alexandre Dumas, comme d'autres, ce sont des lectures que l'on reprend perpétuellement, simplement pour le plaisir de l'écriture et de la lecture.
Si vous aviez à écrire comme Rilke, Rilke a écrit les lettres à un jeune poète, si vous aviez à écrire la lettre à un jeune journaliste.
Eh bien, je lui dirais d'abord de s'adresser à la personne à qui il raconte une histoire et de lui raconter vraiment cette histoire. Car je crois que, à la différence du poète dont vous parlez, ou de l'écrivain, du romancier, un journaliste, lui, il doit raconter une histoire à quelqu'un. Et c'est ça son métier. Et c'est ça, je dois dire, qui fait le plaisir de ce métier. C'est d'essayer de faire comprendre ce qui se passe, de faire comprendre une situation, de faire comprendre une personne, une personnalité, de faire comprendre la bataille qui se joue entre des pays, entre des partis, entre des entreprises, qui sont toujours des hommes, à travers des caractères. Et donc, la force de Kessel, d'Albert Londres, de Lartégui, etc., de nos grands reporters, de Malraux, non, c'est quand même toujours de raconter quelque chose à quelqu'un.
Oui, alors vous allez avoir beaucoup à faire pour convaincre les jeunes journalistes parce qu'aujourd'hui, s'effacer devant le sujet devient assez difficile, sans
doute.
Ah,
mais c'est une tentation éternelle. La tentation d'exprimer ou de vouloir faire part de ses idées ou de ses humeurs ou de sa vision du monde à 23 ans, elle existe de tout temps, de tout temps. Mais précisément, le journalisme est une discipline. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous appreniez à répondre d'abord à un certain nombre de questions.
Oui, mais vous trichez un peu, François Dorcival, parce que comme Jean d'Ormesson, vous êtes éditorialiste.
Or, un éditorialiste... Je l'ai été très tardivement.
Ah oui.
Je l'ai été très tardivement.
Parce qu'un éditorialiste dit déjà plus son opinion. Évidemment.
Je le suis depuis 10 ans, un peu plus.
C'est très différent.
Oui, c'est différent. Encore que, et ça je dois dire que la définition de Jean-François Revel dans ce domaine, elle est parfaite, qu'est-ce qu'un éditorial? Ça ne consiste pas simplement à exprimer son point de vue, car après tout, son point de vue, tout le monde s'en moque, mais c'est de partir d'un fait réel, c'est de partir d'un événement réel, et d'en tirer la moelle pour que de la moelle ou de la morale et soit effectivement une explication et un commentaire de portée générale. Mais si vous ne partez pas d'une réalité, vous êtes dans le vague, le flou, vous écrivez sur du sable.
Merci François d'Orcival, nous reprenons dans quelques minutes.
Qui ne connaît pas ces évocations insolites de monstres marins, grouillants de mollusques, de crustacés, de grenouilles, de gueules de requins et autres créatures de la mer, prenant la forme de nez, de bouche ou d'oreille pour en faire surgir le portrait allégorique de l'eau. Archimboldo a connu une immense gloire de son vivant. Il avait brillé à la cour impériale des Habsbourg, à Vienne, au XVIe siècle. Puis il était tombé totalement dans l'oubli jusqu'à sa redécouverte au XXe siècle par les surréalistes. Redécouvrez la modernité de ce peintre dans notre émission Carrefour des Arts sur canalacademy.com.
François Dorcival, nous reprenons votre habit vert. Nous avons parlé de vos facettes. Eh bien, nous en avons passé une un peu rapidement, c'est qu'étant l'ami du Périgourdin Xavier Darcos, vous êtes bon vivant et que vous êtes du club des gastronomes, mais nous n'allons pas nous appesantir là-dessus. Nous allons surtout parler de vos fonctions dans la presse, c'est-à-dire que vous ne vous contentez pas, si on ose dire, d'être journaliste, vous représentez la presse.
Oui, c'est vrai. Parce que tout simplement, tout ça a commencé avec l'envie de faire découvrir le journal aux élèves des classes. Le journal était interdit dans les classes et jusqu'au début des années 80, et donc j'appartenais à différentes associations, dont le comité d'information pour la presse dans l'enseignement, et qui a obtenu en effet au début des années 80 d'Alain Savary, ministre de l'Éducation nationale, que les journaux pénètrent dans les classes et qu'ils fassent découvrir le monde aux élèves et aux lycéens. Et ceci a été le début d'un parcours professionnel au service de la profession. Parce que cela m'a conduit, quelques années plus tard, à être élu à la tête du syndicat professionnel de la presse magazine et d'opinion, le SPPMO, dont les membres sont absolument très variés et très opposés les uns aux autres, sauf à l'intérieur du syndicat, puisqu'il compte aussi bien l'Humanité, Témoignages chrétiens, que le Nouvel Observateur, La Croix, le Figaro Magazine, le Nouvel Observateur, le Canard Enchaîné, et Marianne, évidemment. Et donc, comme président de ce SPPMO, j'ai été élu à la présidence de la Fédération de la presse pour un mandat de 2 ans. Et puis aujourd'hui, j'exerce donc toujours la présidence du syndicat, à quoi se sont ajoutées différentes présidences à la tête d'associations aussi variées que la promotion de la presse française dans le monde, c'est Unipresse, ou bien je suis président du département journalisme du CELSA, que vous connaissez, et puis maintenant président de l'association Presse et Pluralisme, dont le but est de faire en sorte qu'il y ait un mécénat puissant en faveur de la presse écrite qui en a besoin.
Bien. C'est très impressionnant. Je crois même que vous vous êtes mêlé d'enseignement du journalisme, non ?
Eh bien, c'est le CELSA.
C'est le CELSA, hein, c'est dans le CELSA. Bon, alors maintenant, vous êtes aussi une autre de vos dimensions, c'est d'être très européen. Vous parlez souvent de l'Europe. Alors, il y a quelque chose quand même qui peut-être peut choquer certains dans cette histoire de faire l'Europe, de construire l'Europe. Là, je serais peut-être plus personnelle, mais est-ce que faire l'Europe, elle n'est pas déjà faite ? Est-ce que la culture européenne n'existe pas ? Et est-ce que cette Europe politique, économique, que pour l'encourager, on lâche des ballons bleus à étoiles d'or devant le champ de Mars, qui paraît un peu puéril ? Est-ce que la dimension culturelle ne manque pas ?
Vous avez raison sur toute la ligne. C'est-à-dire que l'Europe est une civilisation et une culture. Et l'événement central que nous fêterons à la fin de cette année, c'est l'effondrement du mur de Berlin il y a 20 ans. Et donc la fin du rideau de fer entre les deux Europes, parce que s'il y a bien un cœur commun à l'Europe, c'est ce qui réunit l'Est et l'Ouest, et nous l'avons bien vu par les échanges formidables que nous avons eus depuis 20 ans. C'est la raison pour laquelle il était très difficile, de ne pas ouvrir les institutions européennes de l'Europe marché commun qui existait, des communautés européennes, pour constituer une union avec les 27. Mais ça pose effectivement des problèmes d'identité, car ces pays-là ont une identité en commun, qui est leur culture, qui est, quand vous regardez la carte de l'Europe et la carte des implantations de monastères à travers l'Europe, vous voyez bien que ce sont en gros les mêmes pays, les mêmes régions, les mêmes contrées et au bout les mêmes frontières. Et s'il y a un problème d'identité, il y a en effet un problème de frontières.
Mais alors est-ce que ce n'est pas les sujets qui fâchent, les monastères ?
Bien sûr, ce sont des sujets qui fâchent parce que entre les Américains et nous, il y a une grande différence d'appréciation à propos de l'intégration ou non de la Turquie. Et dans ce domaine, j'y suis tout à fait opposé parce que la Turquie ne peut pas être assimilée à la civilisation européenne. Elle est aux marges de l'Europe, elle a joué un rôle considérable dans les relations européennes. Nous avons construit avec elle tout au long de notre histoire, Louis XIV, la Sublime Porte, Constantinople, etc., des relations intimes Mais non, pas au point qu'elles soient dans la famille. Non, pas, ils ne sont pas
Oui, mais
vous
vous rappelez, Emmanuel Berle a écrit une histoire de l'Europe extraordinaire où il dit justement que nous sommes sur le continent asiatique. L'Europe ne fait pas partie d'un continent spécial.
Oui.
Et que si nous perdons notre mémoire et notre culture, nous ne serons plus l'Europe. Nous serons absorbés par un immense continent qui n'est pas nous.
Mais naturellement, encore qu'heureusement, le continent asiatique n'a pas souhaité déborder, c'est-à-dire que les Chinois n'ont pas envahi autre que le Tibet, ni les Indiens. Mais ce qui est vrai, et c'est incontestablement dans ce que vous venez de dire, c'est que l'Europe et sa culture, qui, elle, a débordé vers l'ensemble du monde occidental, notamment l'Amérique, évidemment.
Eh bien, et orientale, puisque les Jeux olympiques ont eu lieu en Chine.
Oui. Absolument. Mais ce sont les Chinois qui se sont battus pour être les premiers sur le podium. Ne l'oublions pas. Ça veut dire qu'ils sont très capables. Et donc, à nous de faire vivre à travers des institutions ou surtout à travers des ambitions communes, de faire vivre ce qui est notre mémoire européenne, notre civilisation européenne, nos héros européens.
Est-ce que dans un sens, j'insisterai pour la dernière fois, de la mémoire faisons table rase n'a pas gagné, puisqu'on a des difficultés aujourd'hui à parler de l'histoire, des héros communs. Vous parliez des héros dans les écoles aujourd'hui, on vous montre des anti-héros, si j'ose dire. On vous montre rarement des héros.
Oui, incontestablement. Et pourtant, il ne faut pas l'accepter.
Vous êtes historien, donc c'est à l'historien que je m'adresse.
Je sais bien, mais il ne faut pas l'accepter. Je veux dire par là qu'on ne peut jamais considérer que nous sommes perdus. L'histoire...
Voilà une phrase d'un Schaunach.
Ah oui, non, mais l'histoire est là pour nous rappeler que nous n'avons cessé de déclin en renaissance, de disparition en restauration, etc. Et d'ailleurs, je dois dire que la conversation du général de Gaulle avec André Malraux dans les chaînes qu'on abat est une merveilleuse leçon, parce que c'est une leçon qui date d'il y a 40 ans et que finalement, il n'y a rien de nouveau. Bien sûr, nous avons bien des soucis en matière d'enseignement, en matière de formation des maîtres, tout ça est absolument vrai, mais il y a une force qui est plus grande, qui est que nous sommes portés par une civilisation.
Bien, acceptons son augure. Dernière question, alors François Dorcival, sur un tout autre plan, vous voilà immortel.
Oui, absolument, c'est ce qu'on dit.
Alors, je voulais vous rappeler simplement le passage, le petit passage d'Homère, puisque nous parlions d'histoire, où Calypso, la nymphe Calypso, a vécu des moments passionnés avec Ulysse et propose à Ulysse l'immortalité. Et la réponse d'Ulysse, vous la connaissez, c'est de dire que, homme parmi les hommes, il préfère souffrir et mourir, bien avant La Fontaine, il a dit ça. Vous, si Calypso vous avait proposé l'immortalité, est-ce que vous l'auriez accepté ?
Écoutez, il y a deux idées dans l'immortalité. L'une qui est l'immortalité de l'âme, qui est du domaine de la foi, et l'autre qui est l'immortalité dans la succession, dans la chaîne, dans la construction des familles de pensée, des familles tout court. Et donc, l'immortalité, c'est quand même ce que vous laissez et qui va se conclure par un prolongement. Et ça, oui, j'y crois vraiment aussi.
Alors, il faut d'abord mourir pour être immortel.
Il faut d'abord mourir, comme vous le dites joliment.
François Dorcival, nous vous souhaitons longue vie et de longs succès. Et merci de nous avoir répondu pour votre habit vert.
Merci à vous. Je rappelle qu'au siège que j'occupe à l'Académie des sciences morales et au fauteuil numéro 3 de la section Histoire et géographie, je n'ai eu que 7 prédécesseurs depuis 1832, ce qui signifie que chacun d'eux, en moyenne, a siégé 22 ans.